Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sartre.
JMJ de Rio, le programme a été dévoilé officiellement aux journalistes ce mercredi, mais nous reviendrons sur l'état d'esprit du pape François quelques jours de son départ pour le Brésil. Nous entendrons également Mgr Lafont, évêque de Cayenne en Guyane française. Il nous parlera de l'expérience que vivent de jeunes pèlerins de métropole lors de la semaine missionnaire qui précède les JMJ. En France, le Parlement autorise la recherche sur les cellules souches embryonnaires et sur l'embryon, un pas que dénonce Mgr Dornelas, archevêque de Rennes et spécialiste des questions de bioéthique. Les Coptes égyptiens, cibles de la violence qui se développe dans le pays depuis le début du mois, depuis le renversement du président Morsi, nous reviendrons sur leur situation à la fin de ce magazine. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. Et à l'approche des JMJ, nous allons de plus en plus parler de cet événement qui rassemblera toute la jeunesse catholique du monde. Le programme du premier déplacement international du pape François a été présenté mardi au Vatican aux journalistes. Il s'agit d'un programme chargé, puisqu'en plus des rencontres entre le pape et les jeunes, il y aura aussi un aspect plus diplomatique avec des visites pour aller au plus près des réalités sociales de ce pays continent qu'est le Brésil. Pour le père Federico Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Siège, l'état d'esprit du pape François, quelques jours de son départ, est riche d'enthousiasme et d'espérance.
C'est un état d'esprit riche d'enthousiasme et d'espérance. Le pape parle continuellement de l'espérance. Et il dit aux jeunes, vous ne devez pas vous laisser voler l'espérance. C'est-à-dire, il va encourager, naturellement. Il est toujours une personne qui parle beaucoup de l'amour de Dieu pour encourager les jeunes dans leur chemin vers l'avenir et aussi dans des situations qui ne sont pas faciles, ça c'est évident. Il est très conscient des difficultés du monde et de la situation de la jeunesse. Je pense qu'aussi le chemin de la croix sera très expressif des situations de la jeunesse et aussi des difficultés que la jeunesse rencontre. Alors dans ce sens, ce n'est pas seulement le message du pape, mais c'est le message des journées de la jeunesse ensemble. Il y a aussi les catéchèses faites par des centaines d'évêques. Alors c'est un grand événement d'espérance pour le jeune.
Des propos recueillis par Antonino Gallofaro. Et pour connaître dans le détail le programme de ces JMJ et du voyage du pape, une seule adresse, bien évidemment la nôtre, www.radiovaticana.va. En attendant de rencontrer le pape la semaine prochaine, les jeunes sont pour la plupart déjà arrivés sur le continent sud-américain. Tous ne sont pas au Brésil, terre d'accueil de ces JMJ. Certains sont en effet en Guyane française, dans le cadre de la semaine missionnaire, connue précédemment sous le nom de journée diocésaine ou pré-JMJ. Ces quelques jours ont pour objectif de faciliter l'intégration des jeunes dans le pays d'accueil des JMJ ou, en l'occurrence, chez ses voisins. Le Conseil pontifical pour les laïcs a décidé que la semaine missionnaire reposerait sur trois piliers, la spiritualité, l'action sociale et la culture. L'Église locale espère qu'en participant aux différentes activités prévues durant la semaine, les jeunes auront ainsi l'occasion d'échanger sur leur vie et la façon dont ils vivent la foi catholique dans l'Église de leur pays. Mgr Emmanuel Lafont, évêque du diocèse de Guyane, qui accueille donc des jeunes Français de métropole, revient notamment sur les différences entre la façon de vivre sa foi en Europe et celle en Amérique du Sud.
C'est assez différent dans la mesure où, hormis l'Occident européen, la vie spirituelle fait partie, j'allais dire, du patrimoine commun d'humanité. Chez nous, c'est de ne pas croire qui est plutôt étrange. Tandis qu'on en arrive à croire en Europe que c'est de croire qui est étrange. Et donc même la laïcité qui s'applique en Guyane, j'allais dire comme en France, ne s'applique pas comme en France. Nous avons des relations qui sont très différentes et qui sont beaucoup plus souples et beaucoup plus humaines, sans mélange, dans le respect de chacun, mais avec une reconnaissance mutuelle qui est beaucoup plus profonde. Et puis nous sommes dans le continent le plus catholique du monde. La moitié des catholiques sont en Amérique latine, avec une joie de vivre, une pauvreté naturellement beaucoup plus grande qu'en France, qu'en métropole, c'est-à-dire un niveau de vie inférieur, sans aucun doute, mais une joie supérieure, parce que on s'aperçoit quand même que trop de bien-être, finalement, encroûte un peu l'esprit et le cœur. Et ça, nous n'en sommes pas encore là. Et puis nous vivons dans un territoire qui est inondé de soleil, même quand il pleut. Voilà, quoi. Un optimisme qui sont beaucoup plus profonds que dans pas mal de pays d'Europe.
Le thème de CGMJ est la mission. C'est un thème qui a une résonance particulière en Amérique latine, en Amérique du Sud, où beaucoup de religions se font concurrence.
Oui, parce que d'abord, l'Église est née pour ça, pour la mission. Chaque fois qu'elle l'oublie, eh bien, elle perd un peu de son sel. Nous savons que si quelque chose a été remué au Concile Vatican II, et puis à travers les récents synodes, et puis même le tout dernier synode sur la nouvelle évangélisation, cela revient en force. De la même façon, en Amérique du Sud, vous savez qu'il y a une conférence, c'est-à-dire globale, de toutes les conférences des évêques, qu'on appelle le CELAM, qui ont tenu à Aparecida, au Brésil, une rencontre très importante il y a 4 ou 5 ans, et d'où on a tiré un document qui est remarquable et qui est entièrement tourné vers la mission, vers l'évangélisation. On ne peut pas vivre du Christ sans en vivre avec joie, et on ne peut pas vivre dans la joie sans que cela transpire. Ça fait partie de l'être chrétien que d'être missionnaire.
Qu'est-ce que vous attendez de ces JMJ? Un témoignage de foi, une relance de la foi, un moment de partage entre ces différents modes d'être chrétien?
Tout ce que vous venez de dire, mais particulièrement, j'en attends, comme nous en attendons tous, un enracinement plus profond dans le Christ qui, inévitablement, devient un désir plus grand de le faire connaître. Vous savez, c'était le désir de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et c'est cela, l'être chrétien le plus profond, c'est aimer Jésus de tout son cœur et le faire aimer. J'en attends vraiment un approfondissement majeur de la connaissance du Christ, à travers les Écritures d'ailleurs, puisque vous connaissez le mot de Saint Jérôme, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Nous faisons un très grand effort depuis 9 ans en Guyane française pour que les chrétiens s'approprient la Bible. Cela progresse lentement, mais sûrement, et j'en suis heureux parce qu'il y a là la source du véritable dynamisme de vie spirituelle et de vie missionnaire.
Des propos recueillis par Olivier Tosserie. En France, la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires passe de l'interdiction avec dérogation en vigueur depuis 2004, à l'autorisation encadrée. Mardi, le Parlement a en effet définitivement adopté le texte proposé par les radicaux de gauche autorisant la recherche sur l'embryon et les cellules souches. Un texte soutenu par le gouvernement socialiste pour que la France rattrape son retard. Si la quasi-totalité des socialistes ont voté pour, l'ensemble de l'UDI et de l'UMP dans l'opposition a voté contre. À propos de ce vote, nous avons recueilli la réaction de l'archevêque de Rennes, Mgr Pierre Dornelas, qui travaille sur les questions de bioéthique pour la conférence des évêques de France. Il critique, bien évidemment, ce choix du Parlement.
Il me surprend beaucoup. C'est un vote de parti. Ce n'est pas un vote qui manifeste une grande conscience individuelle des législateurs. C'est un vote qui a lieu après une absence de débat caractérisé. Et du coup, ce vote est plutôt indicatif d'un climat, plutôt qu'indicatif d'une réflexion. C'est un climat politicien, de parti contre parti, et non pas un vote qui manifesterait une réflexion à hauteur des enjeux. Car l'enjeu, il est considérable, puisqu'il est question de l'embryon humain, c'est-à-dire de celui qui partage notre humanité. Tous ceux qui ont voté ont tous commencé à exister dans la condition embryonnaire. Je ne sais pas s'ils avaient conscience de cela. Ce vote est très surprenant, très déstabilisant, et je crains qu'il crée plus de troubles dans les consciences de nos concitoyens qu'il ne résout de problème.
Vous venez à l'instant de déplorer l'absence d'un débat. C'est ce que vous évoquiez aussi au cours d'un communiqué que vous avez publié le 9 juillet dernier, où vous réclamiez, vous plaidiez pour un vrai débat national sur la question. Ma question est très simple. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a eu peur du débat et pourquoi?
Je ne sais pas s'il a eu peur du débat. Le minimum qu'on puisse dire, c'est qu'il y a un certain aveuglement. C'est-à-dire ne pas voir que le débat est nécessaire et que ce débat est un débat de société, c'est vraiment un aveuglement étonnant. Puisque le législateur de 2011 a précisé dans la loi que tout changement concernant la bioéthique devait être précédé d'un débat sous forme d'états généraux. Et que le gouvernement ne veuille pas ce débat de société par la société, ne l'organise pas, c'est au moins un aveuglement. Au pire, une peur. Entre les deux, je ne sais pas. Mais c'est incompréhensible que le gouvernement ne comprenne pas que le débat de société est nécessaire. Car parler de l'embryon humain, ça touche au plus profond des consciences humaines. Il suffit d'être sur le terrain et de rencontrer des parents qui vivent une PMA. C'est une évidence pour eux que cette réalité fécondée, c'est leur enfant. Et donc on touche au plus profond des consciences. Et je suis très triste de voir que le gouvernement et ce pseudo-débat à l'Assemblée fassent fi des consciences humaines. C'est comme s'il y avait quelque part un espèce de mépris pour ceux qui ont une conscience humaine dans la société et qui sont sensibles à cette question du début de la vie dans le sein d'une femme.
Très concrètement, que change cette loi sur la recherche embryonnaire, on va dire?
Tout d'abord, cette proposition de loi, elle parle de la recherche fondamentale. C'est très nouveau, ça, la recherche fondamentale. Habituellement, on était plutôt dans le registre de la recherche appliquée. Donc là, il y a une très grande différence, c'est qu'on parle de la recherche fondamentale. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, l'encadrement de l'autorisation est beaucoup plus flou que les conditions de dérogation au principe d'interdiction. Et troisièmement, s'il y avait avant, avec le principe d'interdiction et la dérogation, il y avait toujours le pouvoir du ministre, c'est-à-dire le pouvoir du politique, d'arrêter la recherche, de l'interdire. Ici, avec cette proposition de loi, c'est une recherche fondamentale avec des contours extrêmement flous pour l'encadrement, pour donner l'autorisation, et c'est totalement livré à l'Agence de la biomédecine. C'est-à-dire que le politique se démet de sa responsabilité et livre tout à des techniciens. Il me semble que c'est comme si nous assistions à la naissance de l'homo technicus et qui prend la place de l'homo sapiens. Nous sommes livrés à des techniciens.
Monseigneur Dornelas, joint par Manuela à Fiji. Autre vote critiqué par l'Église, celui en Irlande, qui autorise depuis le 11 juillet l'avortement si la grossesse constitue un risque réel et substantiel pour la vie de la mère. C'est dans ce contexte que le pape François a envoyé un message adressé à tous les catholiques des îles britanniques à l'occasion de la Journée de la vie, une journée qui sera célébrée le 28 juillet au Royaume-Uni et le 6 octobre en Irlande. Le pape espère que cet événement puisse aider et garantir le fait que la vie humaine reçoive la protection qui lui est due, déclarant notamment que même les plus faibles et les plus vulnérables, les malades et les personnes âgées, les enfants à naître et les pauvres, sont un chef-d'œuvre de la création de Dieu, fait à son image. Ils sont destinés à vivre pour toujours et méritent le plus grand respect et la plus absolue vénération. Rendons-nous maintenant au Proche-Orient, d'abord en Syrie, où des raids au nord-ouest du pays ont fait lundi une trentaine de victimes, dont 6 enfants. Le même jour est arrivée Leila Zerougui, la représentante de l'ONU pour les enfants et les conflits armés. Elle va rencontrer des membres du gouvernement de Damas, des représentants des Nations Unies et des ONG pour évaluer le sort des enfants syriens touchés par le conflit. Près de 15 000 d'entre eux sont déjà morts dans les combats et les bombardements depuis le début des violences en mars 2011. Et ce, selon un responsable de la chaîne de l'Espoir, une ONG spécialisée dans les soins aux enfants démunis. Des enfants, souvent la cible de tireurs embusqués ou qui servent de boucliers humains. Certains garçons de 10 ans sont aussi utilisés par des groupes armés comme combattants ou porteurs, quand d'autres sont violés pour obtenir des informations. La situation est différente à Homs, une ville à l'ouest du pays où vit le père Ziad Hilal. Très engagé auprès des enfants, il prépare avec eux l'avenir du pays.
Il faut travailler avec les enfants pour surmonter la peur et ne pas être perdu dans leurs sentiments, dans leur avenir, dans ce qu'ils pensent. Surtout qu'ils sont très faibles parce qu'ils n'ont pas le moyen de se protéger. Et pour cela, le faire sortir de cette atmosphère de combat, de la violence, de la haine qui ravage non seulement la ville de Homs, mais tous les pays, maintenant en Syrie. On a fait quelque chose il y a 2 mois avec les enfants. On a inventé ce qu'on s'appelle des banques des rêves. Chaque enfant, il peut ou dessiner ou écrire ce qu'il souhaite ce qu'ils rêvent pour l'avenir. Il y avait des enfants qui rêvent d'être, par exemple, ingénieurs pour reconstruire le pays. Il y avait vraiment des rêves qui méritent d'être étudiés et de travailler là-dessus avec ces enfants.
Des propos recueillis par Audrey Radondi. Direction maintenant l'Égypte, où le patriarche copte orthodoxe renonce à ses audiences du mercredi au Caire en raison des troubles qui secouent le pays. Depuis la destitution du président Mohamed Morsi par l'armée le 3 juillet, les actes de violence sont multipliés, notamment dans la péninsule du Sinaï. Des hommes armés y ont lancé quasi quotidiennement des attaques contre l'armée et la police, tuant plusieurs membres des forces de sécurité et deux coptes. L'armée égyptienne a d'ailleurs demandé et obtenu d'Israël le droit de déployer des renforts dans cette zone peuplée principalement de bédouins et servant de base arrière pour des groupes islamistes. C'est l'occasion pour nous de revenir avec Laure Guirguis, spécialiste de l'Égypte et des coptes à l'Université de Montréal, sur la situation des coptes égyptiens.
Effectivement, on peut dire qu'on assiste à une recrudescence des violences contre les coptes, mais ça a commencé quand même depuis, je dirais, plus de 10 ans. Surtout à partir de 2008, là, on a assisté à nouveau à une recrudescence des violences. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à chaque fois que l'Égypte est en situation de crise sociale, économique, politique, et en ce moment, elle est tout cela en même temps, à chaque fois, les problèmes se formulent en termes identitaires et la définition de cette identité se formule en termes d'appartenance communautaire. Bien évidemment, ce facteur qui est structurel, qui est présent en Égypte depuis le début du siècle, mais après, effectivement, est-ce qu'on peut considérer que c'est uniquement le soutien au régime dont elle paye les frais? C'est pas évident, parce que elle a été, il y a des violences qui sont le fait des frères, d'autres qui sont le fait des salafistes, qui eux n'ont pas non plus forcément soutenu le régime. Donc ce que je veux dire, c'est que d'une manière ou d'une autre, il y a toujours une raison et il n'y a jamais de raison pour qu'il y ait des violences qui soient déclenchées.
Tawad Rose, quelle peut être sa stratégie à lui, justement? Qu'est-ce qu'il peut choisir de faire, de dire?
Disons que pour la première fois, le patriarche se trouve à se mettre du côté de l'opposition et à plus se mettre du côté du régime, un peu par la force des choses, parce qu'en même temps, ils auront tendance à sans doute se mettre aussi du côté de l'armée, qu'ils vont considérer comme un moyen de les protéger contre les violences des frères ou des salafistes, de même qu'il s'est mis du côté du régime, qui est considéré comme un rempart contre l'islamisme. Pour la première fois depuis la révolution, enfin depuis le coup d'État de Nasser, le pape est dans l'opposition.
Est-ce que la crainte d'une guerre civile est légitime en Égypte?
Ça dépend ce qu'on appelle guerre civile, c'est-à-dire qu'effectivement il va y avoir des violences encore pendant des années parce qu'on ne voit pas très bien comment la situation pourrait s'améliorer du jour au lendemain, étant donné que la situation économique est catastrophique. Objectivement, il y a des possibilités de guerre civile quand il y a des armes. C'est quand même un des facteurs, les tensions ce qui se passe. Et effectivement, en Égypte, il y a de plus en plus d'armes. Depuis 5 ans, il y a même de l'arme lourde qui circule en Haute-Égypte, des armes qui affluent partout. Le Sinaï est une pétaudière avec des problèmes qui sont spécifiques au Sinaï. Donc on peut craindre qu'il y ait des violences récurrentes. Maintenant, pour qu'il y ait vraiment une guerre civile, c'est difficile de faire des pronostics. Ça va dépendre en grande partie du rôle que l'armée va vouloir jouer et de la manière dont elle sera suivie, de la manière dont la transition va être gérée. Et puis du rôle aussi des pays étrangers. Dans beaucoup de cas, il y a une guerre civile qui éclate et qui se prolonge quand il y a aussi des interventions étrangères, quand il y a des partis pris étrangers qui commencent à financer des groupuscules, parce que c'est là que ça commence à alimenter en armes, en hommes. Donc en Égypte, bon, pour l'instant, c'est pas encore vraiment complètement le cas.
Des propos recueillis par Manuela Afigi. Cri de colère du cardinal Oswald Gracias, archevêque de Bombay et président de la Conférence des évêques de l'Inde contre le viol d'une sœur. Je condamne avec force le viol collectif de cette jeune sœur. Cette violence est du terrorisme physique et émotionnel contre nos femmes et contre l'humanité. Un des pires crimes possibles, a-t-il notamment déclaré après le viol donc d'une religieuse dans l'état de l'Orissa il y a quelques jours. La jeune femme, sœur franciscaine missionnaire de Saint-Joseph, a été enlevée avant de subir des violences de la part d'un groupe d'hommes dans le district de Kandhamal, une région où l'intolérance envers les chrétiens s'est développée ces dernières années. C'est ainsi que s'achève ce magazine. Merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure.